Donc, nous revenons avec Hélène Oppenheim-Gluckman, qui est à la fois psychiatre et psychanalyste, sur les troubles de la pensée et de l'identité, avec là aussi toujours la problématique de la possibilité d'intervention des atteintes cérébrales sur les troubles cognitifs et psychologiques. Bien, donc, madame, vous avez la parole pour 30 minutes.
Alors, mon exposé s'appuie sur mon expérience clinique de psychanalyste et psychothérapeute avec des patients cérébro-lésés. Il va surtout essayer de tracer des pistes de réflexion, car le terrain que j'aborde ici est difficile d'un point de vue clinique et épistémologique, et il a été jusqu'ici peu exploré. En effet, la psychopathologie psychanalytique et le cognitivisme ont des références et des modes d'approche totalement antinomiques. La psychanalyse, comme le rappelle Lacan, est une praxis centrée autour du transfert et de la causalité psychique inconsciente. Les sciences cognitives se situent du côté d'une psychologie expérimentale et de la causalité scientifique. Pourtant, à partir de la clinique des patients présentant des troubles cognitifs, patients psychotiques, comme cela vous a été dit ce matin, autistes, déments, on n'entend plus du tout à ce moment-là. Cérébro-lésé, comment ? Pas trop près quand même. Il faut que je trouve le bon. Est-ce que ça va là ? Cérébro-lésé, donc, la psychopathologie psychanalytique est à mon avis concernée par la question de la cognition. Par rapport à la façon d'aborder la question de la cognition, les positions ne sont pas unifiées au sein du mouvement psychanalytique. Ainsi, en France, pour Vidlocher, la psychopathologie de l'inconscient psychanalytique repose sur des mécanismes élémentaires que seule la psychopathologie cognitive peut expliquer. La psychanalyse ouvrirait un champ très large et spécifique à l'étude de ces mécanismes. Aux États-Unis, un psychanalyste comme Solms cherche à créer un champ spécifique qu'il appelle la neuropsychanalyse ou neuropsychologie des profondeurs. Ce champ permettrait de corréler des éléments issus de la métapsychologie freudienne, par exemple une instance comme le moi, avec les localisations cérébrales, par exemple le lobe frontal. Une tentative proche existe chez une autre psychanalyste, Lisa Lewis. À partir des connaissances actuelles sur les fonctions différentes des deux hémisphères cérébraux, elle fait l'hypothèse que les techniques psychothérapeutiques sont efficaces parce qu'elles permettent au contenu mental de l'hémisphère droit, qui serait le siège des processus primaires, d'être intégré à celui de l'hémisphère gauche, siège des processus verbaux et conscients. Reprenant la formule de Freud, là où était le « ça », le « moi » doit advenir, elle la transforme en « aide l'hémisphère gauche à mieux entendre l'hémisphère droit ». En ce qui me concerne, et c'est ce qui fera l'objet de mon exposé aujourd'hui, j'essaye d'aborder le problème de la cognition à partir de la clinique de patients cérébro-lésés, c'est-à-dire à partir de la clinique de patients qui, à cause de lésions du cerveau dues à des traumatismes crâniens, des tumeurs, des accidents vasculaires, présentent des atteintes cognitives comme des troubles du langage, de la mémoire, du geste, de la reconnaissance des visages, de l'orientation dans le temps et dans l'espace. Je me situe dans le champ de la causalité psychique inconsciente et en dehors de toute logique de causalité de type étiologique, donc en dehors du débat organogénèse ou psychogénèse, et j'essaye, dans le cas d'une relation transférentielle avec les patients, de comprendre à quel type d'expérience subjective ils sont confrontés lorsqu'il y a atteinte des catégories de la pensée pour des raisons organiques. J'essaye aussi de comprendre ce qui se passe du point de vue de leur économie psychique lorsqu'ils doivent faire face à ces atteintes. Cette approche est donc centrée sur ce qui fait événement psychique pour le sujet et différencie le fait d'être cérébro-lésé comme état neurologique et le fait d'être cérébro-lésé comme événement psychique. Mes questions sont les suivantes. Comment la lésion cérébrale, la maladie, les atteintes cognitives s'intègrent-elles dans la vie fantasmatique du sujet et de son entourage, dans son histoire personnelle, familiale, consciente et inconsciente ? Quelles sont les conséquences de la maladie et des atteintes cognitives sur l'économie psychique du sujet ? À partir de ces questions, je décris ou j'essaye de décrire les modes d'organisation de processus psychiques, conscients et inconscients, intra- et intersubjectives, et dans un deuxième temps, je les confronte aux données médicales et neuropsychologiques. Ce faisant, je me situe dans l'optique d'une psychopathologie qui se veut affranchie du souci de l'étiologie et de la causalité scientifique, et je l'espère, dans le cadre d'une psychopathologie au plus près de la causalité psychique inconsciente. Ce type d'abord, appliqué ici à la clinique des patients cérébraux lésés, me semble être une approche possible pour la psychanalyse dans d'autres pathologies, comme la psychose, l'autisme, les démences, où des atteintes cognitives ont été identifiées, et elle devrait permettre, à mon avis, à la psychanalyse de délimiter son champ et sa place, quelles que soient par ailleurs les avancées des connaissances biologiques et neuropsychologiques pour telle ou telle maladie. Ce type d'approche a aussi, bien sûr, des retombées cliniques, dans la mesure où elle influe sur les modalités de prise en charge psychothérapeutique des patients et de leur entourage. Je vais maintenant, à partir de deux exemples, vous montrer comment on peut aborder la question de la place de la cognition pour l'économie psychique du sujet. Je développerai deux points, cognition et sens de soi, cognition et émergence de l'inconscient. Le premier point, donc, cognition et sens de soi, que je vais traiter maintenant. La clinique des patients cérébraux lésés montre que les troubles cognitifs atteignent le sujet dans sa sensation d'identité et d'existence, telle qu'elle est soutenue par la mémoire, par l'image du corps, par le schéma corporel, par le rapport à l'espace et à la temporalité, mais aussi par la continuité de la relation à l'autre et le maintien des processus d'interreconnaissance entre soi et l'autre. L'atteinte de la sensation d'identité et d'existence se traduit chez les patients cérébraux lésés par ce que Kurt Goldstein appelle des angoisses de catastrophe. Il les décrit en ces termes: elles naissent de l'expérience intime du malade qui perçoit aussi bien un ébranlement du monde qui l'entoure que de sa propre personne. Avec des références plus psychanalytiques, les angoisses qui envahissent ces patients peuvent être liées aux agonies primitives ou angoisses extrêmes que Winnicott décrit dans La crainte de l'effondrement. Ces agonies primitives, dit-il, traduisent un effondrement de l'édification du self unitaire, et il rajoute: c'est l'organisation du moi qui est menacée. La notion de soi est apparue tardivement dans les écrits psychanalytiques, je pense aux travaux de Cohut ou de Winnicott. Des notions comme le narcissisme primaire ou secondaire ou le moi décrites par Freud ne permettent pas d'en appréhender la complexité. En m'appuyant sur les travaux de Dolto, j'ai écrit par ailleurs que l'atteinte cognitive induisait un ébranlement de ce que Dolto appelle le narcissisme primordial, c'est-à-dire, je cite, la sensation de mêmeté d'être, ou bien, si je prenais des références plus winnicottiennes, je pourrais dire que les atteintes cognitives mettent en péril le self. Pour Winnicott, le sentiment d'existence s'appuie sur le développement d'un moi intégré du self. Tant que l'enfant est dans une situation d'immaturité motrice et cognitive, ce moi intégré et ce self se construisent et sont rendus possibles grâce à la relation d'étayage apportée au nourrisson, parce que Winnicott appelle la mère suffisamment bonne. Cette mère peut protéger l'enfant contre des angoisses terribles liées à cette immaturité. Et ces angoisses, décrites par Winnicott, sont se morceler, ne pas cesser de tomber, ne pas avoir d'orientation, ne pas avoir de relation avec son corps. La mère a donc une fonction d'étayage et elle supplée, entre autres, à l'immaturité cognitive et corporelle de l'enfant. Cet étayage devient inutile quand divers processus psychiques de maturation décrits par la psychanalyse ont pu se produire, mais aussi, et c'est souvent ce qu'on oublie de souligner, quand une cognition et une motricité élaborées ont pu se mettre en place. La clinique des patients cérébraux lésés montre que la cognition a une fonction d'étayage interne pour le sujet et qu'elle lui permet d'intégrer dans son espace psychique les représentations de soi et du monde propres à chacun. La présence de troubles cognitifs place le sujet dans une situation de dépendance physique, sociale et quotidienne vis-à-vis de son entourage, mais aussi dans un état de dépendance psychique, faute de pouvoir s'appuyer sur ses propres perceptions et représentations de lui-même et de la réalité qui l'entoure. Ainsi, certains patients cérébraux lésés, à cause de troubles de la mémoire, de troubles de la reconnaissance des visages ou de troubles de la reconnaissance des objets, par exemple, ne peuvent plus s'appuyer sur leur propre système de représentation pour parler d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Ils utilisent souvent les paroles de leurs proches comme ce que j'appelle des prothèses de représentation. Je parle de prothèses de représentation quand le sujet s'appuie sur des éléments extérieurs à lui-même pour tenter de se représenter l'accident ou la maladie, ses conséquences, sa biographie, le monde qui l'entoure, faute de représentation interne. Si certains patients peuvent identifier les prothèses de représentation qu'ils utilisent comme leur étant extérieures et donc repérer qu'ils reprennent à leur compte le discours d'un autre, d'autres, au contraire, ne peuvent plus parler en leur nom propre et dire « je ». Bash, qui est un psychanalyste américain, dans un article publié il y a environ 15 ans, différencie refoulement, désaveu et déni. Dans ce qu'il appelle le désaveu, il peut y avoir un discours sur un événement, mais le chemin allant de ce discours à l'expérience vécue et ressentie est barré. La signification émotionnelle et personnelle de la perception de cet événement n'existe pas. La difficulté de certains patients cérébraux lésés à s'attribuer et à créer leur propre système de représentation et la nécessité dans laquelle ils se trouvent de s'appuyer sur des prothèses de représentation les confrontent aux mécanismes psychiques que Bash décrit comme le désaveu. Dans la clinique quotidienne, il est important de différencier ce mécanisme du déni. Cette différenciation est aussi importante dans certaines élaborations théorico-cliniques. Je pense par exemple aux élaborations sur la méconnaissance ou anosognosie des troubles cognitifs et comportementaux. Le malade ne serait pas conscient de son handicap cognitif ou de ses troubles du comportement. Cette méconnaissance était expliquée seulement jusqu'ici à partir de l'alternative aspect lésionnel ou déni. Que se passe-t-il lorsque le sujet est confronté à un mécanisme de désaveu ? Il y a expérience de clivage avec coexistence de deux systèmes séparés, le discours et la représentation interne et éprouvée. Ce type d'expérience, induite par les troubles cognitifs dans la clinique dont je parle ici, favoriserait, selon moi, un faux soi. Dans l'article « Le concept de faux soi », Winnicott dit que chaque individu a un soi, poli ou socialisé, et un soi personnel, privé, qui n'est accessible que dans l'intimité. Dans la vie quotidienne et chez le sujet normal, un compromis est habituellement possible entre ce vrai et ce faux soi, et le soi poli et socialisé, s'il est le résultat d'une croissance personnelle et non d'une adaptation de surface, n'empêche pas le sujet de se sentir exister en s'appuyant sur son vrai soi. Dans certaines maladies, il peut y avoir un clivage très profond entre ce vrai et ce faux soi, le point le plus extrême étant, dit Winnicott, la schizophrénie. Chez certains patients cérébraux lésés, à cause des atteintes cognitives et de leurs conséquences sur les processus psychiques, on retrouve ce clivage très profond entre le vrai et le faux soi, et un faux soi au premier plan. Certaines représentations et expériences de soi et du monde sont mises en valeur ou énoncées en fonction du discours, des besoins et des désirs d'un autre, car le sujet cérébro-lésé a besoin de s'appuyer sur les représentations des autres et de trouver avec eux un discours commun, même artificiel, mais ces représentations de soi et du monde s'écartent de fait des expériences et des représentations que le sujet peut réellement s'attribuer et éprouver, qui, elles, seraient le fondement d'un vrai soi. Tous les éléments que je viens de décrire montrent que l'autre n'est pas seulement pour les patients cérébro-lésés un cerveau assistance, et là je reprends une expression d'un de mes patients, c'est-à-dire que l'autre n'est pas seulement une aide ou une suppléance pour la réalisation de tâches cognitives que le patient ne peut plus faire. L'autre a aussi une fonction d'étayage, comme une mère suffisamment bonne, et il supplée à la défaillance des processus d'étayage interne dus aux atteintes cognitives. Il a aussi une fonction de support de prothèse de représentation. Cette fonction est souvent inévitable à cause de la situation créée par les atteintes cognitives, mais elle est intrinsèquement génératrice de mécanismes d'aliénation et de création d'un faux soi. L'atteinte de la sensation d'identité et d'existence vécue par le patient cérébro-lésé est aussi due à la difficulté qu'il éprouve à faire l'expérience de l'intersubjectivité. Cette expérience est un des fondements de la sensation de soi, comme le montre Winnicott et plus récemment Daniel Stern, qui s'appuie à la fois sur la psychanalyse et la psychologie du développement dans ses écrits. Faire l'expérience de l'intersubjectivité suppose l'existence d'un cadre commun de signification et de moyens de communication, un jeu de langage, verbal ou non, partagé et partageable. Or, à cause des atteintes cognitives, ce cadre commun de partage possible des expériences subjectives est mis à mal. En effet, à cause de ces atteintes, l'univers subjectif des patients et leur compréhension du monde devient différente. J'en donnerai deux exemples. En cas d'amnésie, la perte des souvenirs et la reconstruction de ceux-ci à l'aide de supports extérieurs, photos, récits des proches, ne permet pas aux patients de se les attribuer. Ce sont, et là aussi je reprends les paroles d'un de mes patients, des reportages plats dans lesquels on est sans y être. D'où l'absence d'un éprouvé lié aux souvenirs, d'où la difficulté à raconter l'histoire de sa propre vie, avec toutes les possibilités de modifier la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et dont nous voyons les autres et les événements, d'où aussi la difficulté d'un partage possible avec l'autre de ses souvenirs. Ceci altère les possibilités de co-penser et de co-sentir, si je reprends là des termes de Vidlocher, qui sont des fondements des possibilités d'empathie et d'intersubjectivité. De même, lors de certaines atteintes de l'hémisphère droit, ce n'est pas une aphasie, il y a perte du sens de la métaphore. C'est décrit dans les travaux neuropsychologiques classiques. Dans ces conditions, la parole prononcée par le patient ou par un autre est perçue sans polysémie, porteuse d'un sens unique. L'expérience d'un lien interpersonnel et intersubjectif à travers une signification partagée devient donc très difficile. Il en est de même lors d'autres atteintes hémisphériques droites, lorsque les patients ont du mal à percevoir l'intensité et le sens émotionnel de ce qui les entoure, en particulier le sens émotionnel des visages qu'on leur présenterait. Un jeu de langage transmissible et commun devient dans ces conditions très difficile. Stern, en s'appuyant sur les travaux de Dore, a émis l'hypothèse que le langage au début de la vie serait un phénomène transitionnel tel que le décrit Winnicott. Je ferai l'hypothèse que certains processus cognitifs comme le langage, mais aussi la mémoire et d'autres encore, comme la possibilité de reconnaître les visages familiers, dans la mesure où ils sont nécessaires à la diversité des images et des représentations de soi, des autres, des événements, dans la mesure où ils sont nécessaires à un jeu de langage partagé et partageable et à une co-construction de l'intersubjectivité, sont un support nécessaire, mais pas suffisant, à ce que Winnicott appelle l'ère d'illusion. Cette ère d'illusion est, comme le rappelle cet auteur, une racine naturelle de la constitution de groupe humain et à la base de la créativité. La mise à mal de ce support interviendrait aussi, à mon avis, dans l'atteinte du sentiment d'identité et d'existence. Est-ce que j'ai le temps de faire la deuxième partie ? Ben, j'ai largement le temps. Oui, je ne sais pas. Bon, alors je me mets plus loin. Ça va, là ? C'est bon ? Le deuxième point que je vais aborder, c'est... Non. Là, ça va ? Plus loin encore, comme ça ? D'accord. C'est bon, là ? Le deuxième point que je vais aborder, c'est la question cognition et émergence de l'inconscient. J'ai décrit, lors des réveils de coma neurochirurgicaux, qui peuvent être décrits, considérés comme des atteintes cognitives majeures, ce que j'ai appelé de façon métaphorique inconscient délié. Il s'agit d'un moment où il y a expression directe des représentations et affects refoulés, sans les formations de compromis symptomatiques habituels, émergence de l'inconscient. De même, lors d'atteintes mnésiques avec confabulation, que la psychologie cognitive explique par divers mécanismes, j'ai décrit comment le contenu des fabulations, et non leurs mécanismes qui sont expliqués par la psychologie cognitive, témoignaient de l'expression des processus primaires, de l'émergence de l'espace du rêve, ce dernier dominant les processus de pensée. Ces éléments ne sont pas contradictoires avec d'autres travaux sur les patients cérébro-lésés. Gérard Le Gouès, par exemple, qui est un psychanalyste et qui s'occupe beaucoup de patients déments, souligne que dans les démences, des processus psychiques sont analogues à ceux du rêve. Bernard et Bianca Le Chevalier, dans leur livre Le corps et le sens, disent que dans certaines aphasies, il y aurait apparition de processus primaires. Alors Bernard et Bianca Le Chevalier sont un couple, mais aussi l'un est neurologue et l'autre est psychanalyste. Et ils ont écrit ce livre dans une tentative de confrontation entre neurologie, neuropsychologie et psychanalyse. En ce qui concerne les confabulations, dès 1968, Weinstein et Lierli, qui sont des gens très connus aux États-Unis, les ont interprétés comme un trouble du symbolisme comparable à celui qui apparaît dans le rêve. Plus récemment, Solms, à partir d'entretiens cliniques, a montré que la vie psychique des patients avec des confabulations était dominée par les processus inconscients décrits par Freud, avec remplacement du lien à la réalité externe par la réalité psychique, émergence des processus primaires. Solms fait lui aussi l'analogie entre les confabulations et les processus du rêve. Les études avec l'approche de la psychologie cognitive d'Hobson sur le rêve ne sont pas incompatibles avec les hypothèses développées par Solms ou moi-même sur les confabulations. Selon Hobson, les mécanismes cognitifs suivants interviendraient dans le rêve: désorientation, déficit attentionnel, atteinte de la mémoire immédiate et récente, avec comme corollaire des confabulations. De son côté, Mark J. Blechner, qui est un autre Américain, qui travaille aussi sur le rêve, souligne que dans celui-ci, nous sommes tous des confabulateurs. Les confabulations dans le rêve seraient reliées à ce qu'il appelle des disjunctive cognition, cognition disjointe, où deux aspects de la perception et de la représentation ne sont pas en phase. Elles seraient aussi liées, selon lui, aux distorsions dans la temporalité qui existent dans le rêve, mais aussi chez certains patients cérébro-lésés. Les éléments que je viens de décrire ici suscitent, à mon avis, de nombreuses questions auxquelles il est d'ailleurs très difficile de répondre dans l'état actuel des élaborations. Ces questions sont les suivantes. Dans certains cas, l'atteinte de la cognition favoriserait-elle l'atténuation des processus de censure et de refoulement? Des processus cognitifs, qu'il faudrait définir plus finement, seraient-ils nécessaires au fonctionnement des processus secondaires et, si oui, par quel mécanisme? Il est difficile de répondre à ces questions à partir seulement des travaux actuels. Il y a tout un champ de travail à développer, d'abord parmi les psychanalystes, puis dans un deuxième temps en confrontation avec les neuropsychologues. Un travail interdisciplinaire permettrait certainement de mieux comprendre les relations entre cognition et émergence de l'inconscient chez les patients cérébro-lésés et à partir de ce modèle lorsqu'il n'y a pas d'atteinte cognitive. Il y a peu d'éléments dans la théorie freudienne sur la cognition. Et les principales élaborations faites par des psychanalystes concernent surtout les sujets qui n'utilisent pas les moyens cognitifs dont ils disposent pour des raisons psychopathologiques. Certains psychanalystes ont cependant élaboré quelques hypothèses, mais elles sont très rares. Ainsi, Stern, dans le monde interpersonnel du nourrisson, fait l'hypothèse que les déformations fantasmatiques et l'aptitude aux mécanismes de défense d'un point de vue psychodynamique nécessitent des processus cognitifs élaborés et sont donc une aptitude tardive du nourrisson. Et il s'inscrit à ce moment-là, il y a une controverse avec beaucoup d'écrits psychanalytiques. Solms, dont j'ai déjà parlé, fait l'hypothèse que certaines structures de la région frontale ventromédiane du cerveau seraient nécessaires au fonctionnement des processus secondaires qui caractérisent le système préconscient-conscient. En ce qui me concerne, j'ai mis l'hypothèse qu'il y aurait, lors de certains troubles cognitifs, atteinte du principe de réalité, mais celui décrit par Freud et pas le principe de réalité décrit par les cognitivistes, et encore faudrait-il préciser les différences entre ces deux systèmes. Je m'appuie pour formuler cette hypothèse sur un texte de Freud, un texte assez court, « Les deux principes du cours des événements psychiques ». Dans ce texte, Freud suggère que certains processus cognitifs, qu'il appelle actes de jugement, viendraient à la place du refoulement. Selon lui, il existe un conflit psychique irréductible et constitutif du sujet humain entre désir, vie fantasmatique et réalité. Après avoir rappelé la primauté du principe de plaisir et du ça chez l'être humain, Freud montre comment s'instaure le principe de réalité et sa fragilité. L'introduction du principe de réalité, dit-il, rend nécessaire une série d'adaptations de l'appareil psychique. Deux modes de fonctionnement coexistent alors, je cite, le refoulement en lien avec le principe de plaisir et le jugement en lien avec le principe de réalité. Et Freud écrit, à la place du refoulement qui excluait de l'investissement en tant qu'elle provoquait du déplaisir, une partie des représentations apparaît l'acte de jugement qui doit décider impartialement si une représentation déterminée est vraie ou fausse. Il y aurait donc deux mécanismes qui coexisteraient, un mécanisme qui serait un mécanisme lié à l'inconscient où le refoulement reste tout puissant et qui est le lieu de la création de fantasmes, et un mécanisme plus proche de ce qui pourrait constituer le principe de réalité où la question de la cognition aurait une place importante. Lors de certains troubles cognitifs, on peut faire l'hypothèse qu'il y aurait atteinte des formes d'activité de pensée permettant le fonctionnement du principe de réalité et donc émergence de l'espace du rêve et des processus primaires. Cela dit, la multiplicité des hypothèses, les miennes, celles des collègues, montre qu'il y a là tout un champ à explorer. Cependant, d'un point de vue clinique, l'émergence de l'inconscient lors de certaines atteintes cognitives constitue une atteinte de l'identité tout à fait particulière. On pourrait parler, à l'occasion de certaines atteintes cognitives, d'une effraction violente qui met le sujet en rapport plus direct avec son inconscient et qui provoque une irruption de l'intime dans le quotidien au-delà des limites habituellement concevables. En dehors de l'espace de la cure, se confronter à son inconscient, c'est d'une violence extrême. Cette effraction, d'ailleurs, peut générer un traumatisme psychique si le sujet et les autres ne peuvent se reconnaître dans le discours que le patient énonce. Le sujet cérébro-lésé est, dans ces conditions, à la fois loin et proche de lui-même. Loin, car il apparaît dépouillé d'un certain nombre de ses attributs identificatoires, de ses mécanismes de défense. Près, car il est en rapport plus direct avec son inconscient. Mais l'intuition ou la sensation d'une proximité par rapport à soi-même ne peut exister qu'à condition que le patient puisse se reconnaître comme sujet de son discours et être reconnu comme tel par un autre, ce qui est très difficile en dehors du cadre de la psychothérapie. En conclusion, je dirais que l'articulation entre psychanalyse et sciences cognitives, compte tenu de leurs modèles différents, est difficile, qu'il semble illusoire de chercher à créer des concepts permettant une unification de ces deux champs. Par contre, des confrontations autour des approches spécifiques de chacun peuvent être stimulantes à partir de la clinique des patients souffrant d'atteintes cognitives. Cette clinique devrait être aujourd'hui, à mon avis, un des paradigmes de la psychanalyse, au même titre que les autres paradigmes sur lesquels elle s'est construite jusqu'à présent. Un des prolongements peut-être possibles de ce colloque pourrait être le développement de réflexions et de recherches interdisciplinaires autour du thème cognition et économie psychique.
Bien, merci beaucoup à Hélène Oppenheim. Le parfait respect du temps demandé nous laisse un moment pour les questions. La parole est à la salle. Monsieur.
Oui, merci. C'est simplement dans le prolongement de votre intervention à laquelle j'adhère complètement. Et peut-être pour revenir sur un des exemples que vous connaissez très bien, que vous n'avez pas très développé, concernant les réveils de coma prolongés. Mmh. Et la lésion cérébrale est temporaire. Et au réveil, émergent, comme vous dites, des formations d'inconscient avec une richesse considérable, qui sont en lien d'ailleurs, on s'en rend compte, avec des stimuli qui ont lieu auditifs, tactiles, etc., pendant la période des soins. Oui. Ce qui fait d'ailleurs dire, afficher dans certains services de réanimation en Angleterre, attention, les malades entendent. C'est quand même pas rien. Hein. Des malades, ce ne sont pas des animaux machines, ce sont des malades sous machines. Mais le rapprochement homme-machine est vite fait de la part des soignants. Diane Chauvelot, donc une psychanalyste, a pu elle-même transcrire sa propre expérience et développer ce que vous avez commencé à faire. Deuxième réflexion, alors là, plus large si vous voulez, concernant la réaction du corps soignant et du groupe social, de l'environnement en général, devant les états végétatifs chroniques. Ces patients qui restent dans des comas prolongés des années et qui, en principe, ne se réveillent jamais, sauf des exceptions tout à fait rarissimes et qui font l'objet de publications. Ce que je voulais dire à ce sujet, et ça rejoint un petit peu le regard qu'on peut porter sur ces malades, c'est que, je vais parler en tant qu'expert, si vous voulez, pendant longtemps, les compagnies d'assurance, les magistrats considéraient que ces personnes ne souffraient pas et ne devaient pas bénéficier d'une réparation au titre des souffrances endurées. Il a fallu tout un travail venant des soignants à orientation psychodynamique, venant aussi des magistrats, sous l'angle de l'humain, tout simplement, pour dire, mais ce sont quand même des humains, n'est-ce pas, et sortir de ce regard avec cet étiquetage que tout le monde connaît. On parle de légumes. Je crois que c'est quand même d'une cruauté qui montre bien qu'à certains moments, le regard médical dérape complètement.
Sur la question des états végétatifs, je ne l'ai pas du tout abordée ici, mais c'est une question sur laquelle j'ai travaillé pendant longtemps. Je pense que ça pose une question, c'est aussi quand même la notion même là d'atteinte cognitive est immense, puisque les Américains parlent de mort cognitive, et c'est comme ça qu'ils ont justifié des pratiques de cessation de l'alimentation et de l'hydratation. Ça a été entre autres une partie des écrits qu'on peut retrouver. La question que posent les états végétatifs à l'extrême par rapport à ce que j'ai dit là, c'est la question de ce que serait l'identité et les fondements du sujet. Bon, quand j'ai travaillé sur la question des comas et de la réanimation, ça avait été un de mes problèmes. Et c'est vrai que ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement, on a peu d'outils conceptuels par rapport à ces notions d'identité et lors de ces moments extrêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet une permanence même fugace du sujet dans ces moments extrêmes, et on a très très peu d'outils conceptuels par rapport à ça. Et par exemple, Pierre, on a eu l'exposé de M. Kilborn qui parlait de la honte et d'éléments d'identité de ce type-là, mais on est déjà dans une période bien au-delà, lorsque déjà on a un narcissisme secondaire, on a des constructions qui sont déjà bien au-delà. Mais lorsqu'on est dans des périodes beaucoup plus difficiles, où le sujet vacille, on a très très peu d'éléments conceptuels de réflexion.